Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 18 octobre 2021. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse, la tête dans le paquet, et
reprise
d'aide.
Goal, goal,
vous l'avez dit.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Gouz, vous êtes un salaud. Goal, goal, goal,
bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je crois que pour la fin de ce générique n'a jamais été aussi appropriée que ce soir, monsieur Foot, l'arbitre de ce...
Monsieur Fouche.
Monsieur Fouche.
Je crois que c'est Fouche.
Monsieur Fouche.
On s'en fouche.
Voilà. C'était l'arbitre de ce fameux Bulgarie-France et il avait fait une grosse erreur et de grosses erreurs d'arbitrage. Il va en être question aussi aujourd'hui.
Non, non.
À peine. Alors ce soir, nous saluons le retour courageux d'un intervenant de choix dont je suis assez curieux de connaître l'état d'esprit actuel, car ça a pas mal bougé dans son club de cœur depuis son dernier passage dans le studio. Bonsoir à notre rouge préféré, monsieur Steve Gris. Hop.
Bonjour à tous, bah merci pour l'accueil, hein, ça fait plaisir quoi. Je n'ai plus trop osé me montrer, tout le monde sait pourquoi mais...
on sait que tu sors du lit mais c'est bonsoir qu'on dit à cette heure-ci.
On va parler bien sûr du Standard, du changement d'entraîneur, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps pour le Standard. Notre autre débatteur du soir est lui beaucoup plus serein, le défenseur des Blau & Zwart, non pas Mata, non pas Mekele, mais il s'agit bien de Didier Cohn. Bien sûr.
Bonsoir Sam. Bonsoir Steve.
Ça va Didier ?
Bah très très bien. Un peu vénère, comme tu l'as dit, sur l'arbitrage cette semaine. On en reparlera bien évidemment.
Il y a quelques petites choses à dire effectivement.
T'es gentil.
On va bien sûr donc parler football ce soir. On va parler de Jupiler League puisque le football de club a repris ses droits cette semaine. Et on va s'intéresser également à ce qu'ont fait les Diables Rouges qui jouaient ce week-end dans les divers championnats européens. Et enfin, on parlera du programme de la semaine européenne à venir car il y a pas mal de choses à dire justement. Ça va être une émission riche.
Ça va être chaud demain.
C'est parti, le coup d'envoi est donné. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder par la Jupiler Pro League. Et je vous propose de commencer par le match au final le plus fou. On va commencer par le Standard.
Ah, je croyais que tu disais l'Union, c'était fou aussi.
Oui, mais là, je parlais du final. Après, on parlera effectivement du match le plus fou, sans doute, de la journée. Le Standard qui restait sur 3 défaites consécutives, ce qui avait valu à Mbaylay de prendre la porte et d'être remplacé par Lucas Elsner, qui donc avait son premier examen ce week-end, et premier examen de passage, en tout cas, sa première composition, son premier 11. Avant de raconter un peu ce match, comment est-ce que en tant que supporter du Standard, on a pris ce changement d'entraîneur?
Je dirais un peu là.
Ouais.
Un peu là parce qu'on a vraiment le sentiment que la direction savait juste pas quoi faire et qu'elle a fait sauter le fusible le plus facile. On se rappelle que Mbaylay avait été aussi intervenu parce qu'un fusible avait sauté. On a le sentiment qu'ils essayent d'utiliser les quelques ampoules qu'ils ont en réserve pour essayer de faire fonctionner un système qui est beaucoup plus profondément défaillant que ça. Et on se berce pas d'illusions. C'est de la cave au grenier qu'il faut revoir. Et certes, il peut y avoir un changement psychologique. Une volonté de la part d'un certain nombre de joueurs mis de côté de vouloir montrer quelque chose. Mais je pense que le mal est structurellement, c'est pas le seul club d'ailleurs, hein, mais le mal est structurellement beaucoup plus profond que ça. Je pense que le noyau du Standard n'est pas un noyau faible. C'est pas un noyau qui peut rivaliser avec Bruges, qui peut rivaliser avec Genk, mais c'est un noyau qui vaut complètement un top 6. Mais il y a vraiment beaucoup de travail en termes de mentalité. Il y a beaucoup de travail en termes de continuité. Et pour moi, finalement, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas le changement d'entraîneur, c'est le changement de directeur sportif. Mmh. Combien de directeurs sportifs le Standard a-t-il viré ces derniers temps ? Or, on sait que les directeurs sportifs ont pour mission d'assumer justement une politique sportive à moyen, voire, si on peut encore dans ce secteur, à long terme. Et les entraîneurs, bah, s'ils font un long bail, c'est très très bien.
Bah, il est.
J'allais la sortir, tu me l'as volé.
Un long bail,
c'est prévu, mais. Bon, il aura un long bail, c'est très bien, mais il y a une continuité dans le projet sportif assuré par le directeur sportif. Je regarde Didier parce que je pensais Vincent Manhart, par exemple, à Bruges. Il y a eu plusieurs entraîneurs à Bruges et encore, on peut dire qu'ils ne signent pas des baux de 6 mois, eux. Mais Vincent Manhart reste. Au Standard, Nicaise vient de sauter. Auparavant, Renard avait sauté. Auparavant, Prud'homme avait sauté. Ouais, auparavant, il y avait Laouaré qui avait sauté.
Ah, Prud'homme a sauté, il a sauté tout seul, je veux dire. C'est lui qui a décidé de prendre ses affaires.
On ne sait pas exactement, mais en tout cas...
Enfin, il s'est passé virer, en clair.
Oui, mais il était initiateur d'un projet dans lequel ça n'allait plus et il est parti. Et donc là, il y a un vrai souci.
Il y
a un vrai souci en termes de continuité. Et donc non, je pense que ni moi ni les autres supporters ne pensent à aucun moment que le déclic psychologique sera suffisant pour sortir le Standard du mal très profond dans lequel il est.
Moi je retiens... pardon Sam.
Non, je voulais qu'on commence sur le match et je te propose Vas-y.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Tu disais que le Standard a un noyau clairement pour un top 6, à la différence qu'il faut être dans le top 4. Au jour d'aujourd'hui, dans ce championnat
de Belgique. C'est malheureux, d'une manière délibérée, parce que je ne suis pas certain.
Non, du tout. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, tu disais, OK, ce n'est pas la seule équipe à avoir un problème structurel, etc., dans JPLA Pro League, c'est vrai. Mais dans les équipes dites du top, le Standard, c'est toute une histoire. Je veux dire, c'est pas seulement une équipe de foot. C'est un peu comme l'Union en promotion, bah, les gens allaient voir l'Union. L'Union, c'est dans l'inconscient collectif, l'Union, le Standard, Anderlecht, Bruges, même dans une moindre mesure.
Le mot est lancé. Moi, je pense qu'Anderlecht a le même type de mot que le Standard.
Et ils ont d'ailleurs fait le même score.
Le même type de mot. Ils sont peut-être moins malades, mais le même type de mot. En même temps, il part de plus haut. Hein.
Clairement, mais à la différence, mais moi je vois ça à l'extérieur, je ne suis supporter d'aucune des deux équipes, tu le sais, c'est qu'il y a un vrai projet. Alors on peut être d'accord avec le process ou pas d'accord avec le process, on a déjà fait le process justement 20 fois.
On a fait le process.
mais c'est là que je ne suis pas totalement d'accord avec toi, on va peut-être...
C'est un projet.
Allez, je vous propose qu'on commence sur le match et on va égrener ça au fil du match. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le Standard a réalisé... Somme toute, un match correct dans l'ensemble, en tout cas en progrès peut-être par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Correct, ça veut dire que c'est pas un bon match, mais c'était correct. Le Standard a tout de même mené 2-0. Ouais, mais
c'est comme l'année passée quand Anderlecht prenait un point ou deux points, les gens étaient satisfaits. Mais c'est Anderlecht, quoi. Il faut pas se satisfaire.
Je pense que il y a un besoin d'engranger la confiance et engranger la confiance suppose qu'il y ait des résultats qui servent de base un peu pour engranger cette confiance. Et je pense que ça c'était vraiment vraiment nécessaire. Et là, c'est pique bien parce que c'est pas le match nul qu'on retient, c'est la fin.
La fin. Quand je disais que c'était le final le plus fou. Le Standard a mené 2-0, but de Tapsoba, but de Dragus, et donc semblait se diriger vers sa première victoire depuis des semaines, mais, il y a eu des arrêts de jeu.
Il y a eu des arrêts de jeu grâce au VAR, on y reviendra, ou à cause du VAR.
Allons-y. 10 minutes.
10 minutes pour voir si, pour valider ou non un but, tout simplement. 10 minutes. On est en pleine science-fiction. Je dis que la Belgique est le pays du surréalisme, mais là, je pense qu'on atteint des
Je pense que c'est pas tellement, au risque de revenir en mettant vraiment les pieds dans le plat. J'ai pas l'impression que c'est tellement le VAR qui est en question. C'est la règle initiale que le VAR vient de checker qui est en question.
Non, mais ça prend pas 10 minutes. Attends.
Parce que, honnêtement, bien malin de savoir. Enfin, moi, j'ai revu cette phase. Alors, certes, je suis partial, en partie. Je ne vois pas de hors-jeu. Je ne vois pas de hors-jeu sur cette phase. Et je n'en veux pas du tout à l'arbitre de l'avoir annulé. Je pense pas que c'est ça que le standard a perdu. Certes, on n'aurait jamais perdu si c'était 3-0, mais peu importe. Ils n'auraient jamais dû perdre indépendamment de ça. Mais le VAR, pour moi, à partir du moment où ils sont sur la même ligne, on l'a dit, on l'a redit, on va pas passer même 2 minutes à examiner cette question. Ah, on va pas passer, absolument. On l'a dit, à l'Euro, combien de fois, avec cette, justement, la sortie de Arsène Wenger qui avait dit, ça suffit maintenant. Et là, je pense qu'il a totalement raison.
Tout à fait.
Pas sur la Coupe du Monde tous les deux ans, mais sur le hors-jeu. Revenons à l'esprit de la règle. L'esprit de la règle est très clair. Il ne faut pas que quelqu'un soit hors du jeu, de sorte qu'il fausse le jeu à partir du moment où la passe est faite. À partir du moment où la personne est dans le jeu, mais qu'il a un cheveu, un orteil, un bout de main qui dépasse, ce n'est pas grave. Et si on commence à checker, avec les caméras, s'il a un ongle qui dépasse, s'il a une pointure qui dépasse, on n'aura jamais l'angle parfait pour savoir exactement où il se trouve. On pouvait regarder ça 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes.
Et j'ajouterais même...
Pas
tout de suite, en tout cas. Et j'ajouterais même, on peut regarder...
C'est l'enthousiasme du retour.
On peut regarder avec les caméras tant qu'on veut, quand les caméras sont bien placées, parce que... Ou quand elles marchent... Je regardais le match du Paris Saint-Germain vendredi soir.
Non, t'as regardé un match du Paris Saint-Germain, oui. Toi ? Non.
Le PSG a marqué deux buts qui sont tous les deux complètement contestables. Le premier a moins attiré l'attention, mais... Ce qu'expliquait l'entraîneur d'Angers, il dit mais nous on est devant lui, devant Mbappé qui reçoit le ballon à droite, il est hors jeu et on a nos images à nous parce qu'ils ont un petit, on le voit hors jeu et ça a pris un peu de temps dans le studio, ils ont interrogé et puis pour finir par dire oui mais en fait les caméras étaient pas bien placées donc ils pouvaient pas avoir la perspective. On est au Parc des Princes, on a mis des millions et des millions pour
France,
ça.
Il y a une règle maintenant établie que Mbappé n'est jamais hors jeu.
Non, hors jeu, il n'est jamais hors jeu. Ça, c'est, tu as raison, ça devait être ça en fait. Mais non, mais comme tu as raison.
Je crois qu'on on pinaille sur l'excès d'une règle légitime.
Exactement.
Et revenons. Alors, je sais.
Oui,
que,
mais là, oui. En fait, là, tu as parfaitement raison. Je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté,
on était dans le même mai qu'il y avait eu 10 minutes d'arrêt de jeu.
Mais c'est ça que je voulais revenir à ça en disant. Après, les règles, on peut en rediscuter encore pendant 1000 ans, mais ça ne doit en aucun cas, quelle que soit la phase, prendre 10 minutes. Ça n'existe pas.
Non.
Les mecs, ils se refroidissent, ils sont sur un terrain, les gens qui viennent, qui payent, c'est pour voir du foot,
donc
pas pour voir...
Dire, on pourrait dire, après 4 minutes, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, avantage à l'attaque. Ce qui est pour moi l'esprit
du jeu. Mais je crois qu'on devrait même pas en arriver à cette extrémité. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, si on a, je sais pas combien ils sont dans le quart.
3, je crois.
2, 3, parfois 4 en France, ça dépend des pays. Mais je crois qu'en Belgique, ils sont 3.
À un moment, s'il n'y a pas une unanimité, on laisse l'arbitre du centre décider, ou on lui dit, viens voir, on voit plus nous, et puis lui, il passera pas 10 minutes devant le moniteur parce qu'il va avoir. C'est l'avantage de ceux qui sont dans le quart, c'est que personne ne peut venir leur mettre de pression. Un arbitre, même si c'est pas ce qu'on souhaite, mais qui va rester une minute à regarder 20 fois le ralenti, il y a les entraîneurs qui vont lui dire, bon, ça y est, maintenant, prends ta décision, et il prendra sa décision.
Je suis d'accord, mais alors là, moi, j'ai un souci, tu vois. Moi, j'estime.
Non, mais là, on est encore là dans un extrême d'un extrême. C'est-à-dire,
on
n'arrive pas à trouver une solution.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? C'est de dire, voilà. L'arbitre prend une décision, contestable ou pas, peu importe. Le VAR examine, à la demande peut-être de qui, et le VAR est souverain. Je veux dire, sauf quand il y a de l'interprétation et que le VAR, etc., mais le VAR est souverain, c'est lui qui a les caméras, c'est lui qui a tous les angles. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi le VAR devrait dire à l'arbitre « tu devrais venir voir les images parce qu'on pense
mais là,
que... »
Mais là, non, c'est même pas ça qui a pris du temps ici, parce que l'arbitre n'a même pas dû aller voir.
Non, mais je parle globalement, tu vois, je parle de l'existence du VAR.
Si je pense que c'est quand il y a un doute, c'est quand il y a un doute.
Il y a une interprétation qui peut être un peu différente, où il peut y avoir, j'imagine que ça... Ils appellent l'arbitre, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir les dessous de ça, des discussions pour qu'on comprenne mieux,
mais
nous,
là,
en tant 10, que...
Mais les 10 minutes, c'était hallucinant. Bah
imagine, nous, on est en train de parler du VAR conceptuellement, ça fait déjà 8 minutes.
Ouais.
Alors imagine
mais
pour un truc qui est un peu
litigieux. Mais ils font appel à l'arbitre quand, il y a peut-être deux avis différents dans le quart, dans le VAR, et donc, on va laisser ça à la responsabilité de l'arbitre.
Bah, je repense, il est allé voir dans le pénalty Belgique-France, le pénalty de Tielemans. Là, il t'allait voir. C'est vrai que on regarde cette phase. Je pense qu'il y avait plus pénalty que pas pénalty, mais c'est le pénalty. On ne peut plus léger, même si la faute. Je ne t'ai pas.
Léger, il y a pas de petit ou grand coup franc. C'est dans le rond central, on siffle faute, point. Et dans le rectangle, c'est la même chose, à part que c'est pénaux. Je veux dire, moi, c'est ça que je me fixe et je trouve ça normal. On va revenir peut-être au pénalty de Onuachu, bien sûr. Sur Onuachu, il y a un contact, mais avant ça, il fait une faute flagrante en prenant les deux comme un videur de boîte de nuit. Eh ben, le VAR doit dire non. Ok, il y a faute. Ce que tu siffles est juste, mais avant ça, pour en arriver là, le mec il fait une faute, donc il faut siffler le premier coup franc avant le deuxième, point barre. Et je trouve que le VAR doit être souverain là-dessus. L'arbitre a pas mal arbitré, puisqu'il y avait contact sur Onuachu, donc il a raison de siffler coup franc, donc pénalty, puisque c'est dans le rectangle, mais il n'a pas vu la faute préalable. Et c'est là que le VAR devient intéressant. Parce que sinon, à quoi ça sert le VAR? C'est juste pour valider les décisions de l'arbitre? Non, désolé. Désolé.
C'est vrai, c'est vrai. Et donc le calvaire des Standard Men a commencé lorsque le temps additionnel a lui-même commencé, puisqu'à la 96e minute, c'est d'abord un but de Mercier, il est magnifique, tu l'as dit. Une frappe lumineuse.
Ouais, elle vient de nulle part. Enfin, après,
elle vient de nulle part, voilà.
Les défenseurs, on doit faire un pressing, on doit pas le laisser, mais bon, il est loin.
Il est loin, on s'attend pas à ce qu'il fasse une
patate.
C'est super, c'est
un peu moins subtil que
Bonizzi. Et là, je t'interromps, hein. Je vais te laisser reprendre le fil. Mais là, tous ceux qui l'ont regardé, dont je fais partie, se disent
aïe.
Jamais tu vois le HL revenir. Ils n'ont pas une action. Ils ne touchent pas une balle. Mais avec ce standard-là, on est à la 96e minute. Tu te dis,
mais c'est vrai,
ils vont complètement perdre les pédales. Et quand ça arrive, on se dit, mais c'est pas vrai.
Et je crois que le commentateur le dit.
Pourquoi est-ce qu'ils sont là à ce point où on les attend dans la fébrilité?
Ouais. C'est le signe d'une équipe sans doute qui ne va pas bien en ce moment. Elle reste pas pour rien sur 3 défaites consécutives. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on prend le premier but à la 96e. On sent que le deuxième va arriver, et c'est ce qui se passe à la 99e minute. Égalisation donc dans les tout derniers instants. Alors c'est la première fois depuis 4 matchs, c'est vrai que le Standard n'a pas perdu. Mais quelle frustration quand même pour eux. Est-ce qu'on peut espérer des évolutions positives d'après toi?
Oui, moi je crois.
Avec Lucas Elsner, ou est-ce que ça va être le type de manager à pouvoir bouger cette équipe de ces joueurs du Standard?
Avant de laisser l'avocat de la défense s'exprimer sur le Standard, moi j'ai envie de dire, très honnêtement, tu es à la maison, tu t'appelles Standard, tu mènes 2-0. Pour moi, personne ne peut revenir. Personne. C'est des fautes professionnelles qui se sont produites. À quelque niveau que ce soit, c'est des fautes professionnelles qui doivent être punies d'une manière ou d'une autre. Hein. On est bien d'accord quand je dis ça, il faut pas les envoyer au goulag non plus. Mais je veux dire, il faut pas se cacher derrière quoi que ce soit d'autre en disant pas de chance et on était trop nerveux et tatati et tatata. Non, t'as besoin de points mon grand, tu t'appelles le Standard, tu mouilles le maillot et tu fais pas des erreurs comme t'as fait. C'est impardonnable et c'est une faillite collective, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord là-dessus.
Moi je suis...
Donc et je disais à Sam, on en parlait tout à l'heure, je disais pour Lucas Elsner, c'est compliqué, c'est son premier match sur le banc. Donc il a du mal, je pense, moi je me mets à sa place, à rentrer au vestiaire et de hurler, etc. Parce qu'il doit d'abord avoir l'adhésion du groupe avant d'eux. Et donc,
il ne peut pas se mettre le groupe à dos tout de suite.
Voilà. Et si c'était son troisième ou quatrième match, à mon avis, dans les vestiaires, ça aurait hurlé parce qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut supporter et accepter l'inacceptable. Je veux dire, t'es à la maison, je le répète, tu t'appelles le Standard, ça ne peut pas arriver un truc pareil. Ça ne peut pas.
Je suis entièrement d'accord avec Didier. Je pense qu'il s'est rendu compte de l'ampleur de la tâche qu'il avait à faire au niveau extrasportif.
Je ne sais pas s'il pourra prendre les mesures qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas.
Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois des évolutions. Les évolutions me semblent aller de même parce qu'il y a de la qualité là-dedans. Donc, je ne sais pas si ce sera avec Elsner ou avec un autre. Mais
il faudra quand même lui laisser un peu de temps.
Mais il y a de la qualité pour aller clairement de l'avant.
D'ailleurs, Carcella est rentré.
Alors oui, alors mais là j'ai
aussi.
Là j'ai
aussi.
Un peu le sentiment qu'il pose des gestes pour montrer.
C'est symbolique.
Vous savez, un nouveau CEO qui arrive.
Bah, Lay a fait la même chose.
Lay a fait exactement la même chose.
Exactement. Il avait même nommé capitaine. Voilà, il prend les 2-3 indésirables. Il y en a un qui met sur le terrain. Il y en a deux qui met sur le banc. Il fait rentrer. D'ailleurs, on peut se poser la question de. Il fait rentrer Carcella quand c'est 2-0. Il se dit il reste 20 minutes. Pour voir si c'était ou non une bonne idée, alors que la défense était en train... Il y a des éléments défensifs comme Dussen qui était déjà en train de sérieusement souffrir.
Oui, Dussen qui n'avait pas joué.
Parce qu'il n'a plus joué depuis un an ou je ne sais pas combien de temps. Donc, je pense qu'il a essayé de poser des gestes forts, symboliques pour montrer... Voilà, on est dans une nouvelle ère.
Bah, il n'a jamais imaginé un instant qu'il allait perdre des plumes dans ce match-là, à 2-0. Hein.
Donc, et surtout, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les statistiques, mais je ne sais pas si OHL avait un tir cadré avant ce tir de Mercier.
Mais donc. Ce sont des équipes qui jouent 90 minutes, 99 minutes même. Et eux, en revanche, on ne peut pas les taxer de manquer de professionnalisme et manquer de grinta avec leurs moyens, bien évidemment.
Mais il faut voir ce deuxième goal, hein. Ce deuxième goal est impressionnant dans le sens où on a l'impression que chaque joueur du Standard avait peur de la balle, avait peur d'être la personne qui allait commettre la bourde. Et en faisant ça, eh ben, collectivement, ils ont tous été l'auteur d'une grosse bourde collective qui a amené à un goal qu'on s'attendait tous. On s'attendait à ce que le deuxième tir cadré de HL en 4 minutes soit un deuxième goal, tellement ils avaient peur.
Tout à fait. Il y a du boulot sur, il y a du pain la planche pour Lucas Elsner, mais écoutez, il s'attelle à ça. Il va avoir aussi un match difficile puisqu'il va jouer contre son ancienne équipe très bientôt. Ça fait partie des joies du changement de.
Si je peux me permettre, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat dans une prochaine émission, mais. Je ne comprends pas personnellement comment est-ce qu'en Belgique, on peut en plein milieu d'un championnat débaucher l'entraîneur d'une équipe qui joue dans la même division que toi. Je trouve ça
Je suis entièrement d'accord, honnêtement.
Ça n'a pas de sens.
En termes éthiques, le dirigeant du Standard qui aime se dire on a moins d'argent, mais on est plus éthique, là, ils ont montré qu'ils n'avaient pas d'argent et que l'éthique était quand même un peu à désirer.
Mais non, mais il suffit d'empêcher, d'interdire ça.
Une équipe qui n'a pas non plus beaucoup d'argent, mais qui a la Grinta, la vraie Grinta. C'est, on va parler du match le plus fou du week-end, la remontada Union Saint-Gilloise.
Hein. Et c'est pas inédit pour eux. Hein,
c'est pas inédit, mais c'est vrai que là, dans ces proportions-là,
et à 10 contre 11.
Hein. C'est ça, c'est toi qui... on s'est échangé pour tout vous dire. On s'échange régulièrement des messages sur une messagerie. Et il y en a un qui de nous, c'est pas moi en tout cas, c'est peut-être... Il dit en tout cas, quel exploit, ils prennent 2 buts à 11 et ils en marquent 4 à 10. Puisque c'est ce qui est arrivé à l'Union Saint-Gilloise, menée dans son antre du Stade Marien 2-0-2.
Plein comme un œuf, il y avait 8000 personnes.
Voilà. moi, je n'ai pas su avoir de place pour ce match.
Alors, je sais bien.
Et oui, non, Blaise y était. Blaise y était. Que ça a pris beaucoup de temps à rentrer. 0-2 à la mi-temps, on pense que l'Union a touché le fond, mais pas encore, puisque c'est une expulsion qui va changer encore plus le cours du match. C'est Lazare ou Lazare ?
Lazare, toujours, je crois.
Il se fait expulser à la 45e minute, et donc on retourne au vestiaire.
Bêtement en plus, hein.
Ouais,
bêtement,
assez bêtement.
Pour avoir contesté deuxième jaune.
L'arbitre lui a dit d'arrêter de se plaindre, et il a applaudi.
Boum.
Il faut.
Enfin,
quand on est prévenu, on est prévenu.
Je suis d'accord. Mais enfin, voilà.
Il se fait pas expulser. Il se prend une deuxième jaune.
Et honnêtement, l'arbitre lui a mis des recommandations. Il a dit à un moment, tu prends sur toi.
Là-dessus, je comprends bien.
Mais bon, voilà.
Il reste une minute avant la mi-temps, tu vas aller te calmer.
S'ils enlèvent le maillot, c'est une jaune. Et ben, l'euphorie du moment quand ils prennent un goal.
Mais là, ils étaient très frustrés.
Oui, bien sûr.
Et donc, qui aurait parié sur le retour de l'Union, à part peut-être les unionistes eux-mêmes? Moi, j'aimerais bien savoir j'aimerais bien savoir ce qu'il leur a dit, parce qu'ils ont réussi à en passer 4 à leur adversaire en deuxième mi-temps, sous l'impulsion du dynamiteur dont on s'attend de personne, qu'ils connaissaient déjà avant ce match.
Le japonais
Kaoru Mitoma.
Attends, quand ils l'ont transféré, ils avaient déjà dit que c'était un class back, comme on dit à Bruxelles.
Pour le moment, il fait un rôle de joker de luxe. Hein.
Joker de luxe. Alors, j'ai regardé un petit peu. Donc, il est arrivé en prêt donc de Brighton. Il venait d'être transféré. En fait, il vient du Japon. Il n'a pas joué avec Brighton encore. Il vient du Kawasaki Frontale. Et là, c'est un ailier gauche, international espoir japonais. Et il sortait d'une bonne saison au Japon. Il n'a pas dû jouer tous les matchs. 24 matchs, 12 buts, 5 assists. C'est pas mal. En tout cas, ça suffit pour, je crois, 3 millions d'euros. Il a été transféré à Brighton, qui l'a prêté à l'Union. Et il aura été vraiment le dynamiteur il est entré d'ailleurs, il est entré à la pause. Hein, donc, c'est vraiment...
Et là, je voulais y venir. Alors, indépendamment du discours ce qui est dans un vestiaire reste dans un vestiaire, donc on ne saura probablement jamais, quoi qu'en dise Paul Pogba. Mais, d'un autre côté, il faut quand même saluer la décision de Felice Mazzu, qui, à 2-0, à la limite, j'ai envie de dire, à ma décharge, j'ai envie de dire, il n'avait pas le choix. Mais d'un autre côté, j'en connais peu, qui réduit à 10, garde deux attaquants, fait encore monter un gars offensif, et il a joué son va-tout en disant, c'est ça, ou alors, il y a des entraîneurs qui auraient dit, on va essayer de ne pas prendre une casquette à la maison, histoire de...
Oui, c'est ça peut être l'enjeu. Tout à fait. À 0-2 à 10 contre 11,
je trouve ça formidable. Pour donner personnellement, j'ai regardé cette première mi-temps j'expliquais à mon fils, là, 10 contre 11, 2-0, on va aller faire autre chose en seconde mi-temps.
Et attends, c'est pas la première fois.
Et puis mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec tous les goals qui étaient en train d'être marqués. Je me suis empressé d'aller regarder la fin du match.
C'est bien, tu l'as.
Mais formidable, parce que je trouve ça génial. Alors qu'on est vraiment totalement dans la différence de ce qu'on disait avec le Standard, où on savait qu'au moindre petit pépin, ils allaient encaisser.
Exactement.
Là, totalement l'inverse.
On
se dit que le match est totalement terminé. Pas du tout.
Non,
à 2-2, je sais pas votre sentiment, à 2-2, on sent qu'ils vont mettre le troisième.
Ah oui,
un petit peu à l'inverse du Standard. On sent qu'à 1-2, ils vont prendre le deuxième et
j'ai trouvé aussi que c'était pas seulement le score, c'était pas seulement à 10 contre 11, c'est que Serein fait une super première mi-temps, qui gagnait tous les duels.
C'est vrai.
Que l'Union avait du mal à sortir de sa zone. Le pressing était très haut de Serein. J'étais très étonné d'ailleurs de voir Serein, qu'on disait un oiseau pour le chat.
On les a vu jouer 2-3 fois, ça joue quand même au foot. Hein.
Oui, tout à fait. Surtout depuis qu'ils ont retransféré ce gars de Metz, là, Nicoladze. Mm-hmm.
Tu sais ce qui les dessert, je trouve, Serein, c'est que les. Malheureusement. Bien joué. Moi, je les ai vus toujours. Les matchs que j'ai vus d'eux, c'était à la maison, au Perret. Eh bien, c'est tellement. Il n'y a tellement pas de place pour mettre les caméras que tu ne sais pas t'apercevoir du beau jeu et du dessin d'une attaque. Tu es un peu.
Ça les dessert.
Ça les dessert un peu. En tout cas, en tant que. Pour le spectateur neutre.
C'est vrai que ça fait partie. Alex Demeter pourrait nous en parler, mais c'est vrai que je sais que les. Dans les stades, le placement des caméras est étudié et pour permettre, pour donner plus de spectacle et plus d'envie aux téléspectateurs.
Extraordinaire à Gand, hein. Tu vois le stade,
tu sais
voir le dessin d'une attaque, tu sais tout, c'est vraiment génial.
Tu vois les lignes.
Mais oui.
Tu vois les lignes de disposition sur le terrain.
T'es comme l'entraîneur. Mais nous, on n'est pas entraîneur, on n'est que spectateur, donc on a envie de voir du spectacle. Les entraîneurs ont plus de mal. Enfin, probablement ils sont pas là pour ça non plus. Mais, ça les dessert parce que franchement, techniquement, ils sont bons. Je les ai vus jouer récemment, c'était contre le Standard. D'ailleurs, ils ont fait un top match, même si le Standard était malade. Mais bon, il faut se taper le Standard quand même. Oui, quand tu t'appelles Serein et un derby, c'est toujours un derby. Hein, c'est jamais un match comme les autres. Et franchement, ils ont perdu ce match-là. Non, match nul, je pense. C'était 1-1 le Standard a gagné 0-1, je crois.
Au Perret. Les pauvres.
Il n'y
a pas beaucoup. Oui, mais c'était pas mérité. Un peu contre le cours du jeu.
Absolument.
Hein,
absolument.
Ce que je trouvais là génial avec l'Union, c'est que, honnêtement, même à 11 contre 11, ils avaient beaucoup de mal en première mi-temps. Serein avait été très très bon tactiquement pour leur disposition sur leur terrain, embêter l'Union qui était incapable de développer son jeu, et ils avaient beaucoup physiquement, ils gagnaient tous les duels, tous les deuxièmes ballons ils les gagnaient, et puis en seconde mi-temps, j'ai pas vu la première partie de la seconde mi-temps, mais j'ai revu après le résumé. Mais quel grinta à 10. Ouais.
Ah oui, mais ça, ils l'ont dans tous leurs matchs, hein, même à 11. Hein, ouais. Ça joue au foot.
Mais là, on pouvait dire, bon, allez, tant pis, celui-là est un peu vendangé, on va pas essayer de pas se prendre une casserole. Mais non, waouh, quoi.
Ouais, la belle histoire se poursuit, hein, pour les hommes de Mazou qui, rappelons-le, sont des promus.
Et on les attend maintenant. Il n'y a plus l'effet de surprise.
C'est quoi?
Deux points par match.
Je discutais avec quelqu'un que vous connaissez récemment là-dessus. Je ne suis même pas sûr que pour eux ce soit une bonne nouvelle de finir dans le top 4, hein. Parce que si demain ils sont européens, je sais pas si ça va les arranger, hein. Franchement. Et donc ça pourrait même fausser les playoffs. Si, et je leur souhaite, parce que sportivement, moi je suis pour que le sport.
Ils laisseront leur place au Standard, hein.
Mais tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, les intérêts économiques vont supplanter les intérêts sportifs, je pense. Et on va, je sais pas si on va leur demander de lever le pied, mais t'imagines
si même c'est pas possible. On va voir s'ils vont tenir dans la durée.
Ouais,
l'excitation du promu qui réussit très 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 bien. Mais là, faut avouer que le collectif,
c'est merveilleux,
est pas mal. Le banc n'est pas désagréable non plus, hein, parce qu'on voit ce petit japonais. Bon, il y a tout cet autre attaquant.
La presse avait déjà été dithyrambique pour lui au moment du transfert.
Il y a Dante Weiser et
Undav.
Non, mais Avenatti qui est sur le banc, là, c'est toujours un peu. Mais donc, il y a quelques joueurs sur le banc. La surprise, évidemment, toujours, et on se répète chaque année avec les promus qui font un très beau début de saison. Ouais. Ça va être tenir dans la durée, mais avec un entraîneur de l'expérience de Mazou.
Et les gars, on est au tiers du championnat, là, hein, phase classique, je veux dire. On est même.
Alors, j'irai peut-être plus loin. Enfin, tu as raison, il faut qu'ils tiennent sur la durée. Après, peut-être même s'ils tiennent, c'est la saison d'après. Je pense avec beaucoup de tristesse au pauvre Berscott, qui après 11 journées à 2 points et dernier, qui avait.
Mais ils ont une excuse, hein, ils ont eu Peter Maas comme entraîneur.
En tout cas, ils avaient fait une super saison la saison passée.
Je lisais dans le soir ce week-end une interview du CEO de l'Union qui disait que ils étaient extrêmement contents évidemment, mais que pour lui dans la continuité, c'était le maintien qui était important.
Bien sûr, ouais.
Pour le reste, il pense avoir ses assurances pour assurer une stabilité de l'Union en D1 les prochaines années. C'est son objectif. Et je trouvais que c'était très réaliste comme message.
Ce serait formidable pour la ville de Bruxelles.
Il a dit, je sais que je vais perdre maintenant mes joueurs sont en vitrine, je vais les perdre, mais on y travaille déjà. On travaille déjà à assurer une continuité.
Ouais, mais c'est vrai que le travail commence tôt pour pouvoir anticiper ce genre de départ. comme tu le dis, et comme il le dit, il le sait lui-même, ça attire les gros poissons de voir ces joueurs évoluer si bien depuis le début de la saison, après avoir fait une saison en division.
Même si tu poses la question, moi je me posais la question quand je les voyais, j'ai eu la chance d'aller 3 fois au stade depuis le début de la saison. Quand tu les vois, collectivement, je les trouve très impressionnants. Individuellement, je ne sais pas qui pourrait dans une autre équipe sortir du lot à ce stade. Je n'arrive pas à identifier. Je trouve que c'est avant tout ce collectif bien bâti et ce jeu qui fait. C'est moins une individualité. On pense à Van Zer parce qu'il marque des goals.
Undav aussi. Mais par contre, dans chaque. Si tu me permets de t'interrompre un instant, je trouve que dans chaque secteur. T'as un joueur qui sort du lot. Alors, tu as les deux devant, qui sont Undav et Van Zer, et de semaine en semaine, on les associe toujours, ça ne fait qu'une seule personne. Hein, c'est Van Zav ou Undav, c'est comme
manière,
on veut. Undav,
il a une manière rigolote de courir.
Hein, tout à fait.
Un peu trapu comme ça, mais tout à fait. Très impressionnant. Bah, ouais.
Bah, produit de Genk, en même temps, c'est l'école de formation Genk, donc c'est pas n'importe qui. Van Zer, ça vient de là. Dans l'entrejeu, il y a un Danois là qui est juste exceptionnel. Juste exceptionnel dans la distribution, dans le ratissage, et propre. En plus, et il sait garder un ballon, donc c'est un petit peu un Huitzel avec tous les guillemets nécessaires, on est d'accord. Et derrière, ils ont, les noms m'échappent, mais ils ont quand même des tours pour garder la baraque, quoi. Donc ils ont vraiment, alors ils n'ont pas une individualité qui sort, ils n'ont pas un Mbappé ou un Neymar, mais dans chaque ligne, ils ont vraiment quelqu'un qui est un vrai leader et un vrai meneur et sur qui les autres peuvent se reposer aussi.
Et ils ont Maurice là comme gardien.
Oui,
c'est pas marrant. Du tout. Oui, j'avais pas gardé une si passé par le standard, une image aussi excellente de lui, mais qu'est-ce qu'il est bon au pied. Mm-hmm. Cette espèce de gardien à la nueur qui est un joueur de champ, qui est le premier joueur à la relance. Et ça, il fait ça très très bien.
Allez, on passe, on avance. On avance parce que on est déjà à moitié de l'émission. Une équipe qui piétine.
Allez,
Anderlecht.
Prenons du rythme, s'il vous plaît.
Anderlecht qui piétine. Les Mauves se rendaient à Saint-Tron. Saint-Tron, c'est habituellement pas, c'est pas le plus compliqué des déplacements, mais il faut se le faire quand même. Les Anderlechtois restaient sur une série, d'invincibilité, hein, intéressante, mais 2-3 matchs nuls. C'est bien, on est bien invincible, mais par contre, ça fait que 3 points sur 3 matchs et c'est un
l'année passée, ils ont été aussi les champions.
Exactement, c'est
de Belgique,
du match nul. Hein. Les Mauves ont pris le bouillon en début de match, hein. Ils auraient même dû encaisser en première période, mais ils peuvent remercier surtout le manque de précision et de réalisme des attaquants de Saint-Tron. À la reprise, Anderlecht va ouvrir la marque sur un penalty pour le moins contestable. Et on va rentrer dans le vif de la polémique. Hein. Kwame lancé plein axe, il entre dans la surface, il s'apprête à disputer un face-à-face avec Schmidt, le gardien japonais de Saint-Tron. Mais il pousse... Oui, il s'appelle Schmidt et il est japonais.
Non, mais je revois
l'image de ce penalty. Voilà. Il pousse trop loin son ballon. S'écroule, c'est même pas ça, il se laisse tomber. Le gardien est même pas au contact. Enfin, il arrive au contact une fois qu'il est déjà en train de tomber. Moi, j'avais cette sensation à l'œil nu. Je vois pas comment on peut ne pas la voir en voyant les ralentis, mais en tout cas, ça n'a pas empêché l'arbitre de siffler.
Et l'arbitre, quand l'arbitre arrête, on s'attend tous à ce qu'il déjuge le pénalty.
Absolument.
Et en fait, il brandit la carte jaune. Et donc, je me dis, tiens, il brandit la carte jaune pour simulation. Bon. Pas du tout. Il brandit la carte jaune après l'intervention du VAR contre le défenseur.
Ah bah,
je n'en prenais pas.
C'était les prémices du lendemain, puisque Penn a souffert de la même chose.
De la même chose. En tout cas, ça n'a pas empêché Refaelov d'inscrire le pénalty avec beaucoup de sang-froid. C'est peut-être l'un des seul beau geste de l'Israélien de ce match qui a été terrible.
Il est passé à côté,
ouais. Il passe bien à côté. Saint-Tron va pas baisser les bras et va revenir au score assez rapidement, ou alors sur une action où là, la défense d'Anderlecht a eu tout faux. Il y a un contre deux à jouer pour un joueur de Saint-Tron au point de corner, donc faut être quand même costaud parce que vous avez aucun endroit pour aller en arrière puisqu'il y a les limites du terrain. Vous avez deux adversaires devant vous et ben les deux adversaires réussissent à pas bien s'entendre, deux coéquipiers défenseurs donc de Anderlecht, ils remettent la balle à ce joueur qui en demandait pas tant, qui fait un centre, et là il y a encore il y a un dégagement, alors pas tout à fait dans l'axe mais tout de même, et Konaté qui reprend la balle à l'entrée de la surface, et là c'est un petit peu comme ce que tu disais avec le standard, là on a l'impression que le ballon passe non pas entre les jambes mais enfin personne n'intervient vraiment, et le gardien, sans vouloir trop le charger, je pense qu'il voit arriver le ballon vraiment à la fin en se disant que ça peut être touché par 8 joueurs entre le moment où la frappe est déclenchée et le moment où elle m'arrive. Donc je ne vais pas commencer à anticiper sur un côté, et du coup il est en retard.
Égalisation. Pour avoir revu les images, il y a un joueur, alors je ne me demande pas lequel, mais qui à un moment est sur la trajectoire et on voit qu'il retire le pied. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il le retire pour se disant, je vais la dévier et
c'est vrai.
Le gardien va anticiper le tir. Parce
et c'est
que...
moi qui vais tromper mon gardien voilà. en le faisant partir
et
du mauvais côté.
C'est ouais. réflexe en même temps, parce que nous on voit ça, on a le temps de réfléchir et lui, ça se passe en une fraction de seconde, ça va pas être évident.
Alors à la 76e minute, Anderlecht va bénéficier d'un nouveau pénalty. Il n'est pas clair, mais celui-là, il est pas... quand je dis il n'est pas clair, c'est moche d'encaisser un pénalty comme ça. Hein. Il y a un centre en retrait de Verscharen, le défenseur de Saint-Tron récupère la balle du requin, mais il fait un mauvais contrôle, il est face à son but, il fait un mauvais contrôle, donc la balle est un peu loin, c'est Raman qui peut la jouer, et puis du requin la dégage, mais sauf qu'au lieu de jouer le ballon, il joue le tibia, ou enfin le mollet plutôt.
Il arrive en retard.
Il arrive en retard, alors que c'est lui qui a le ballon, c'est quand même dommage. Penalty, c'est vrai que c'est moche, j'allais dire, c'est vraiment moche, mais c'est un penalty faute. Là-dessus, au moins, il n'y a pas. Ben
voilà, c'est
y a
un coup
faute.
Franc, et un coup franc dans le rectangle, c'est péno.
Voilà, les fautes sont aussi les fautes, là, pour le coup, c'est les fautes de maladresse, ouais. Il n'a pas été adroit, et bon, bah, c'est tant pis pour lui. Et donc, but, c'est Sergio Gomez qui va être un tout bon, on en est presque tous persuadés, cette arrière.
C'est bonne pioche, je trouve, pour Anderlecht.
Arrière droit.
En tout cas, c'est lui qui sort du lot. Alors, je ne sais pas si lui est tellement excellent par rapport aux autres, et si les autres qui sont peut-être d'un niveau inférieur à ce qu'on a l'habitude de voir, du côté du Lotto Park, mais franchement, il sort.
Il sort du lot. Je ne sais pas si vous avez vu le but qu'il a marqué avec les espoirs espagnols, avec un relais. Il a déboulé tout seul sur le côté. Il a fait un ou deux relais. Il est le capitaine, je crois, de cette équipe. Il a marqué vraiment un très beau but. C'est un bon joueur, très bon joueur d'avenir.
Et puis surtout, je le vois de semaine en semaine. Je ne suis pas tous les matchs d'Anderlecht, mais tous les matchs que j'ai vus, c'est le seul qui mouille le maillot de la première à la 90e minute. Et il est sur son flanc et il arpente le flanc, mais
il est consistant.
Comme Thomas Meunier de toute grande époque. Vraiment, sans arrêt.
Ah là là.
Moi, c'est ce qui marque. Ce qui marque, c'est qu'on parvient à l'identifier. Et je fais le lien avec ce que je disais avant, avec les problèmes du standard, et je trouve qu'Anderlecht est relativement similaire.
Oui, tu le dis souvent.
J'ai du mal à. Je l'ai déjà dit l'année passée. J'ai du mal à identifier les joueurs d'Anderlecht.
Ah, on est d'accord.
J'entends des noms. Après, il y a des noms.
Joueur que vous auriez certainement identifié si vous aviez regardé un match au milieu de semaine dernière, mais il n'y a que Blaise qui pouvait regarder ce match. Un ancien joueur d'Anderlecht, et comme l'a dit un commentateur, ah tiens, ils sont venus à deux. Il y a Samir et Nasri. Nasri après peut-être 20 kilos depuis qu'il a arrêté.
J'ai vu les images.
C'était très amusant.
Les images, il n'a pas pris 20 kilos. Beaucoup plus que ça. Il ne tient pas dans un t-shirt. Un t-shirt qui n'est pas moulant. C'est triste, hein. C'est triste parce qu'il est censé. Sa carrière est totalement derrière.
Oui, je crois que.
Le free de code de Saint-Guidon a fait 16 ans.
Il n'est pas resté longtemps, mais il aura. En tout cas, il aura bien profité.
Il a fait tourner l'économie.
Il a fait. Il s'est adonné à toutes les
Cet espagnol et
on l'identifie, tout à fait raison.
On l'identifie, une éclaircie comme Mamoudzou.
Comme Rafaelov aussi, quand il est bien disposé.
Rafaelov, il a un problème de régularité.
C'est ça.
Comme toute l'équipe d'Anderlecht.
Personne ne remet en cause ses qualités, mais je trouve que ça fait. En fait, il a toujours eu ce problème.
Mais tout Anderlecht, c'est la même chose, ce que je te disais. Ouais. Ils ont été étincelants contre Bruges. Très honnêtement, moi j'ai vu ce match-là et comme on disait, on avait débriefé là-dessus, on disait le match nul est équitable au vu du match, mais chaque équipe pourrait revendiquer la victoire et il n'y aurait pas eu à redire quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un match merveilleux, à l'échelle belge bien sûr, mais Anderlecht a vraiment brillé. Et j'ai trouvé ça plaisant à regarder. Et moi, en tant que Belge et supporter de foot, ça m'a fait plaisir de voir ce match-là. Après, une semaine après ou 10 jours après, ils te sortent un match comme contre Saint-Tron. Tu te dis, attends,
il y a un problème.
Il a mis l'équipe Z ou quoi? C'est quoi le plan? C'est pas les mêmes noms. Et pourtant, sur la feuille de match, c'est les mêmes noms. Donc, ça va pas.
Il menait d'ailleurs.
Et c'est là où j'étais en désaccord avec ton affirmation préalable dans l'émission en disant, il y a un process. Parce que pour moi,
Je l'entends,
le concept qu'il y a un process. Je dénie le fait qu'il y ait une exécution de ce process.
Non, c'est vrai. Mais la moyenne d'âge a augmenté solidement.
Oui, elle est devenue, pour moi, un ensemble de joueurs en transit. N'est pas grave, mais qui est la marque simplement d'un club qui n'a pas d'autre choix.
Qui n'a pas de finances suffisantes que pour
le standard.
Et tu parlais de Bruges.
Ils n'ont peut-être pas les moyens de leur
ambition. Tu parlais de Bruges, on va certainement y venir dans un instant. Mais la différence est flagrante avec Bruges.
Oui, mais
Bruges n'est pas un club en transit, où les joueurs sont en transit.
Mais ils ont mis combien de temps? C'est 10 ans de construction. Ouais. 10 ans. Hein.
Ah oui, mais là, ça fait quelques années que là, maintenant, ils sont plus que bien implantés.
Trois ans, mais c'est maintenant qu'ils récoltent vraiment les fruits.
Et oui, mais
ils font venir des Noah Lang pour 600 000 euros ou un truc comme ça, ou un million.
Ou ils font revenir, comment il s'appelle, Izquierdo, qui fait, non, comment,
Izquierdo, Josque.
Qui font revenir, enfin, donc c'est des bonnes pioches qui font revenir aussi. Chaque transfert est quand même un atout ajouté à une base.
Attendez, j'adore vous écouter, vous le savez. On va essayer de finir, de structurer, de faire un process.
On est toujours à 2-1 pour Anderlecht.
Voilà, c'est ça. Nos auditeurs vont croire qu'Anderlecht va gagner.
Le même fil, j'avais oublié, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on l'interrompt toujours.
En fait, les supporters d'Anderlecht vont adorer nous écouter. Pour le moment, ils ont gagné.
1-2, il y a donc 1-2, mais comme nous le dit Henri, les matchs devraient même pas durer 90 minutes avec Anderlecht, puisque c'est encore une fois dans les arrêts de jeu que les Anderlechtois vont encaisser un but. Un but qui, là aussi, est assez... Je sais même pas comment le qualifier. Il y a un coup franc lointain, un contrôle de la poitrine assez tranquille.
Tout seul.
Une frappe qui semble pas cadrée, mais que le défenseur...
Elle est cadrée.
Je suis pas certain.
Ah, il est dans son but quand il la met dedans.
Ouais, non,
il est au milieu du but quand il la met dedans.
Ouais, je sais pas ce qu'il a fait avec son pied. Il a mis l'intérieur. Enfin... Donc il se met un autobus et on va revenir là-dessus. Il y a eu un penalty donc qui était très très scandaleux.
C'est très, on y très reviendra douteux. À Gand.
À Anderlecht. Et là il y a même une faute sans doute sur Murillo de la part des joueurs de Saint-Tromp, comme quoi ça tombe pas toujours dans le même sens. Mais ceinturé au moment du coup franc, et c'est vrai qu'en direct le commentateur dit mais comment on peut oublier à la dernière minute un joueur seul.
Parce que nous on regarde la balle.
On regarde la balle, voilà. Exactement.
Et le VAR il devrait regarder le terrain. Eh bien. On revient de nouveau à la même chose. Le VAR doit dire, ok, c'est pas le joueur qui tire qui est fautif, il n'y a pas de hors-jeu, mais il y a une faute préalable, le but est annulé. Stop.
Bon, alors vous voulez qu'on parle de Bruges ou qu'on parle de Charleroi Genk.
J'aime autant d'abord dans un premier temps qu'on revienne puisqu'on a parlé de l'arbitrage.
Qu'on reste sur l'arbitrage. Ça a été
c'était vraiment le fil rouge et on va rester peut-être dans la chronologie si tu permets.
J'ai juste avant ça, je pense qu'il y a une chose, un avis qui résume assez bien ce qu'on pense et nous ce soir et ce que doivent penser tous les joueurs qui ont été victimes d'une injustice due au VAR. Je vous propose d'écouter une petite phrase, je vais vous dire qui c'est.
La VAR, ça commence à me fatiguer cette histoire là, mettre des millions dans un truc on sait même pas l'utiliser.
Voilà, mettre des millions dans un truc on sait même pas l'utiliser. C'était un joueur, Romain Thomas d'Angers, contre le Paris Saint-Germain, parce qu'il est donc arrivé la même mésaventure aux Angevins qu'il est arrivé, la même mésaventure qu'il arrive à Eupen,
je trouve qu'il faut accepter, je pense aussi l'avoir déjà dit il y a quelques mois, il faut accepter les maladies de jeunesse de ce système.
Ce système est bon, on doit
accepter les maladies de jeunesse. Le problème dans le football, c'est qu'on a un souci grave avec le changement, avec l'acceptation de ce que les tests ne sont pas quelque chose de définitif, à ce qu'on puisse trouver après une voie pour pouvoir l'améliorer. Mais je trouve que le VAR a déjà amélioré pas mal de
choses.
Mais il n'y
a rien à améliorer, enfin, Steve.
Mais si, il y a amélioré.
Il y a des fautes d'arbitrage à éviter. C'est le seul et unique but du VAR.
Les limites du VAR, pour moi, on ne critique pas le VAR en tant que tel. Je veux dire, par là...
C'est le VAR la VAR, comme le Covid ou la Covid,
un peu comme les Français, les Belges.
En fait, c'est le VAR en tant l'acronyme, mais si on se base sur ce que veut dire le VAR, c'est-à-dire la Video Assistance Referee, normalement, c'est la vidéo.
Oui, tout à fait. Mais je veux dire par là, alors Sam disait, et c'est très révélateur ce que tu dis, ils ont été frustrés à cause du VAR. Non, pas à cause du VAR. Justement, parce que le VAR n'est pas intervenu. Donc, le VAR n'est même pas en cause dans le pénalty.
Tu as raison. Alors, ça dépend, parce qu'on, là aussi.
Il y a quand même quelque chose de très impressionnant avec le VAR. C'est que, auparavant, on voyait les arbitres prendre une décision sur un pénalty ou non. Jamais tu voyais l'arbitre douter. Il était toujours là. Quand il décide qu'il y a pénalty, il montre et il demande aux gens d'arrêter, de discuter. Quand il décide qu'il n'y a pas pénalty, il l'indique avec ses mains. Qu'il n'y a pas pénalty, il demande aux gens d'arrêter de discuter. Là, tu vois une chose. C'est que dès qu'ils sifflent ou qu'ils ne sifflent pas, les joueurs viennent et ils font tous de la main demandant aux joueurs de ne pas venir près de lui et ils montrent qu'il y a l'oreillette. Mmh. Et tu sens vraiment...
Mais ça, c'est quand il y a l'oreillette. Hier, il n'y a pas eu l'oreillette.
Tu sens vraiment que l'arbitre...
On parle pas de la même chose.
Je pense que vous parlez de la même chose.
Laisse-moi terminer mon idée. Je trouve que c'est formidable pour deux choses, parce qu'on voit d'abord que l'arbitre n'est pas si sûr de lui, et ce qui est tout à fait normal, parce que c'est impossible d'être à 100% sûr sur un petit détail qui se passe en quelques secondes. Donc c'est logique, tu vois que l'arbitre, et tu as l'assurance de voir que la personne, il y a une aide derrière qui vérifie si oui ou non, limitant ainsi les potentielles okay. contestations.
Alors, je pense
donc que c'est une bonne chose, mais qu'il y a pas mal de maladies de jeunesse.
Non, moi, je pense qu'une chose, c'est que quand l'arbitre met le doigt sur l'oreillette, c'est que si vous voulez, le VAR ou la VAR, comme tu parlais de maladies de jeunesse, il y a une chose qui a été mal comprise au début, mal perçue. On se souvenait des gens qui demandaient ils demandaient l'assistance du VAR, comme les challenges au tennis. C'est pas le principe. Le principe, c'est que le VAR, il est là comme un, c'est bretelles et ceinture. C'est-à-dire que l'arbitre,
c'est le bâtonnier. Point.
Voilà, le VAR, il vérifie.
Il tranche,
mais il vérifie tout avec 10 secondes de retard, 20 secondes de retard, comme vous voulez, mais l'arbitre prend une décision. Est-ce qu'il a bien, enfin, dans le cadre de ce que le VAR veut, est-ce qu'il a il a raison ou pas raison? Quand le VAR n'intervient pas, ça veut pas dire qu'il n'intervient pas. Ça veut dire qu'en gros, il valide ce que l'arbitre a dit. Donc l'arbitre, quand il est assailli par les joueurs et qu'il fait doigt sur l'oreille en disant l'oreillette, ça veut pas dire juste, ça veut dire.
Il y a un check
qui est en cours. Ne vous excitez pas. Il y a un check en cours. Mais ça veut donc pas dire que si l'arbitre n'est pas contredit.
Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire?
Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Quand l'arbitre n'est pas contredit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vérification du VAR.
Tu m'as perdu là.
Non, mais l'arbitre. Et moi, si je reviens à la faute de Onuachu.
Oui.
Il y a faute sur Onuachu, mais il y a faute. Avant
d'Onuachu.
Et c'est la règle qui est que s'il y a un pénalty, on doit vérifier ce qui vient avant. Et là, ce que je comprends pas, ce que je comprends de la situation, c'est que le VAR a bien regardé qu'Onuachu et a considéré qu'il n'y avait pas faute d'Onuachu.
Non.
Ce qui me paraît très difficile à concevoir.
Voilà.
Parce que ce qui me paraît difficile à concevoir, mais si on se tient à ce qu'est le VAR, les arbitres ont regardé, ils ont considéré sans doute qu'il y avait un duel valable.
Alors le VAR n'est pas en question, et je reviens à ce que je disais à Steve et que je ne suis en désaccord avec lui.
C'est l'interprétation.
Alors bien sûr, je suis d'accord avec toi que le VAR a des maladies de jeunesse, mais en l'occurrence, on ne parle pas des maladies du VAR. On parle de la maladie
des mauvais arbitres.
Ou des gens qui établissent les règles. J'estime, moi, que l'arbitre, il n'a pas eu peur, Visser, il a indiqué le point de pénalty ferme et dur sur la faute sur Onuachu, et il a eu raison parce qu'il y avait faute sur Onuachu, on est bien d'accord, donc il n'est pas en cause, il est affirmatif, il est OK. Pour moi, le VAR doit lui dire, mon gars, effectivement, t'as raison, ce que tu vois, mais tu n'as pas vu un truc en amont qui a lieu une demi-seconde avant. Ça t'a échappé, le but n'est pas valide. Le pénalty n'est pas à accorder, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup franc préalable, donc on siffle le premier et pas le deuxième. Et il y a eu la même chose à Eupen, c'est la même chose, et on le voit de face, parce que nous, on n'a pas autant de caméras que le VAR. Au moment même, on regarde les trucs en direct, il y a péno. Bien sûr, il y a péno sur Bézus, il a déjà passé en revue toute la défense, il a fait un truc à la Maradona, clairement.
Ah ouais, sur 20 mètres, il limite 4 joueurs.
Et puis c'est le dernier joueur qu'il le passe, il va vers le but, il s'écroule, boum, pénalty. Tu le vois en direct, tu dis ok, c'est péno, machin. L'arbitre sort la carte jaune, alors que de mon point de vue, si déjà tu sors une carte, c'est la rouge, c'est le dernier défenseur, clairement. Et ensuite, tu le vois de face. Et tu vois que de face, il n'y a pas de contact du tout. Mais pas du tout.
Il est en bout de course. Oui.
Il est en bout de course, il tombe, etc.
Il se laisse tomber. Oui.
Alors, simulation, pas simulation, je m'en tape. Très honnêtement, et peut-être un peu trop vulgairement dit. Mais le VAR doit dire à l'arbitre, gars, il n'y a pas péno. Bien sûr que dans le direct, tout le monde, même dans le stade, personne n'a rien dit.
Mais alors, tu penses quoi?
On parle de la même chose.
Tu penses quoi?
C'est pas la maladie du VAR, ça. C'est la maladie des gens qui regardent les caméras.
Tu penses qu'il s'est passé quoi, alors, dans cette action précise? L'arbitre siffle penalty. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que les arbitres VAR ont donc revu ça et ils ont dit à l'arbitre dans l'oreillette, tu as bien fait, il y a faute. Donc dans ce cas-là,
ce que je pense. Je pense.
Ou alors ils lui ont dit, on ne sait pas, démerde-toi.
Non, je pense qu'ils n'ont rien dit du tout. Et je crois que, pour avoir entendu déjà des débats et des Marcel Javot à l'époque, alors je ne sais pas si les règles du VAR évoluent, je pense que le VAR intervient pour dire à un arbitre qui n'a pas sifflé péno, il y a péno. Mais je n'ai jamais vu un VAR qui annule un pénalty qui a été sifflé. Ça, je n'ai jamais vu, moi, perso. Oui.
Il n'y a pas eu un pénalty même qui a été accordé d'un côté et finalement qui a été accordé de l'autre côté.
Tout à fait. Ah, mais alors, la question que je me pose...
Parce que là...
Si tu penses que ce n'est pas une maladie de jeunesse, si tu penses que le système, si je t'écoute bien, si je t'ai bien compris, je fais valider ça par toi, que le système est bon, mais que la décision qui a été prise par les arbitres constituant le panel de vérification n'était pas bonne. C'est donc un problème, non pas du système, mais un problème de qualité des personnes en charge de la vérification.
Si tu veux, d'une certaine manière, mais c'est même pas là que j'irais. J'ai envie de dire, trop de règles tuent les règles. Et on est en plein là-dedans, selon moi, hein, ça n'engage que moi ce que je dis. On évoquait ça la semaine passée. Que penses-tu d'un truc ? Et le VAR n'a même pas le droit d'intervenir. L'arbitre siffle corner. Et tu vois dans le ralenti qu'il n'y a pas corner. Et il y a but derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'estime qu'on a les moyens techniques. La VAR, ou le VAR, hein, nous permet aujourd'hui de voir avec certitude, et ça prend 15 secondes, parce que ça, c'est même pas une interprétation, c'est rien, c'est celui qui touche la balle en dernier. Pourquoi il n'a pas le droit ? Alors, sur les rentrées en touche, c'est discutable, parce que
et
voilà.
Ben, moi, je dirais,
mais un corner est une phase.
Là, je dirais que c'est une maladie de jeunesse, une des maladies de jeunesse, c'est de savoir quand intervient le VAR.
Voilà.
C'est pas européen, je pense que c'est propre à la Jupiler Pro League.
Non.
J'ai l'impression.
Je crois pas.
Pour le moment,
on check nulle part les corners.
Le check est encore limité à certains points. Il est tout à fait possible. Je trouve que l'exemple que tu donnes est excellent.
Je suis d'accord.
Il est tout à fait possible qu'on se dise que dans le futur, le check va être étendu.
Mais c'est normal.
Également à ça. Je ne dis pas que c'est anormal.
Après, ce qu'on peut craindre, c'est de dire, bon, on commence comme ça, et comme dit la blague, on commence comme ça, après on fume à Shabbat. On commence par vérifier un corner, et après on vérifie si la touche au milieu du terrain...
Le corner, c'est clairement une phase de but.
C'est pas une phase de but. Statistiquement, c'est pas une phase où... C'est pour ça que le Barça de Guardiola, par exemple, ne tirait jamais ses corners, parce qu'ils avaient plus de chances de marquer en sortant le ballon à ras de terre plutôt qu'en mettant une balle devant.
Il a personne au-dessus d'un mètre septembre.
Je suis d'accord avec toi. Dès lors que les défenseurs montent, il se passe quelque chose.
Voilà. Un corner tiré peut s'avérer être un assist. Une rentrée en touche n'est jamais un assist.
Ça peut être un assist ou au contraire un déséquilibre.
Tu n'as pas connu cet excellent joueur standard qui s'appelait Onyewu. Tu te rappelles ?
Oui, bien sûr.
Il faisait des rentrées en touche.
Bah oui.
Et des rentrées en touche absolument incroyables, quoi. Il a fait des assists par des rentrées en touche.
À la Rory de Lapp, qui jouait.
Mais pas quand c'était au rond central, hein.
Mais en tout cas, il y a des problèmes d'arbitrage et de VAR qui ont été un peu partout en Europe, beaucoup en Belgique, en France, je vous le disais aussi.
Mais j'ai le sentiment, l'arbitrage a toujours été un débat. Moi, j'ai vraiment le sentiment que le débat ne se situe plus sur les mêmes choses que il se situait avant le VAR. Et j'ai l'impression, d'abord, on fera jamais l'économie de débat. Si on fait l'économie de débat, on perdrait certainement un petit quelque chose dans le football. Mais j'ai l'impression que ce qu'on débat maintenant va aussi connaître des évolutions. Moi, ce que je vilipende, c'est peut-être la lenteur d'un processus de décision qui, pour peut-être l'exemple donné par Didier, est peut-être une évolution évidente.
Mais je trouve, pour ma part, enfin, je comprends pas, d'une certaine manière, ça a coûté, et ça coûte, des millions et des millions et des millions, d'accord, de mettre ça en place, pour finalement avoir dépensé je ne sais pas combien de dizaines de millions, pour juste voir s'il y a péno ou pas, pour juste voir, parce que la goal line technologie, c'est à part, hein, ça existait déjà avant, et pour juste voir si la dangerosité, on fait quand on donne une carte rouge ou pas une carte rouge. Et il est hors-jeu, point barre.
Et les fois où... Et si l'arbitre ne s'est pas trompé de joueur, ce qui doit arriver... 5 fois par an, dans tous les championnats du monde.
On est bien d'accord que le VAR était là, on a l'outil pour nous permettre d'avoir un football, je vais dire, équitable d'une certaine manière, que c'est devenu, ça a tellement évolué, ça va tellement vite. Quand tu regardes un match des années 70, t'as l'impression que c'est en slow motion par rapport au foot actuel, mais c'est la vérité. Hein.
Mais je pense que le VAR a été mis en place pour éviter que les arbitres se fassent abuser, justement, par ces attaquants qui se laissent tomber dans la surface, mais qui le font tellement bien et tellement vite que l'arbitre se fait prendre.
Tu mets pas des millions juste pour une simulation.
Ah non, mais pas une simulation. Un pénalty, quand on sait que le football, c'est 2,3 buts par match, s'il y en a un qui arrive sur pénalty alors qu'il ne devait rien y avoir, ça fait pencher la balance d'un côté.
Où commence la simulation ? T'as un joueur qui dégage la balle dehors et qui lève la main en disant c'est pour moi la rentrée. Je veux dire, c'est un réflexe chez un footballeur de toujours lever la main. C'est pas de la simulation.
Non, mais pour revenir dans un débat peut-être un peu à contre-courant, il y a aussi une éducation, je pense, de tout le monde qui doit être faite quant au droit à l'erreur. Hein. J'ai le sentiment qu'on est tellement en attente, tellement désireux. Ils disent des millions là dans l'extrait que tu as indiqué, mais ces joueurs valent aussi des sommes qui n'ont aucun sens économiquement.
Donc je pense pas que ce soit.
Mais ça rapporte. Hein, le VAR rapporte rien.
L'argent, mais à la limite, mettons l'argent de côté.
Il fait partie d'un processus qui rapporte, et c'est un rouage d'un processus qui rapporte.
Mais mettons l'argent de côté. C'est pas ça. La frustration, c'est d'avoir un outil qui est censé améliorer les choses.
Absolument.
Et qui ne les améliore crée encore plus de frustration chez un joueur. Il y a 20 ans, où on parle pas d'un pénalty peut-être, parce que pénalty ça vous reste en travers de la gorge, mais une faute qui n'a pas été sifflée ça passait et puis on n'en parlait plus. Là aujourd'hui, vous avez dès lors que l'arbitre, dès lors qu'il y a eu une faute, que le VAR n'a pas vu cette faute, ou n'a pas corrigé l'arbitre, ça reste dans la tête des joueurs qui disent, mais pourquoi? Pourquoi c'est contre nous? Pourquoi est-ce que on a investi cet argent, mais peu importe l'argent, mais pourquoi on a cet outil?
Ah, moi, j'ai admiré le flegme et la sportivité du joueur de peine. Parce que le mec, est, non seulement il se fait siffler un péno contre lui, et en plus de ça, il prend une jaune. Et le gars, il est resté, il a pas invectivé l'arbitre et tout. Il essaie de s'expliquer. L'arbitre lui dit, casse-toi. Et il sait très bien que s'il va un peu plus loin, il prend une deuxième jaune. Je veux dire, chapeau bas, mon Dieu. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais chapeau bas, parce que tu as un sentiment de frustration et d'injustice mais épouvantable.
Terrible.
Et j'ai envie de dire, tu sais quoi, le VAR, pour donner une image un peu souriante, c'est comme demain, j'ai l'impression, tu vas dans un institut de vidéosurveillance pour surveiller ta maison, pour pas qu'on te vole, tu vois, et on te dit, voilà, j'ai un matériel ici, c'est vraiment exceptionnel, c'est le dernier cri, bazar. Seul problème, c'est que c'est de 22h à minuit seulement. Hein. Voilà, ce n'est que la règle, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser plus de 2 heures par jour. Eh bien, le VAR me fait penser à ça. On a l'outil, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un foot beaucoup plus équitable qu'il n'est aujourd'hui, pour le moment. Eh ben, c'est tout. Et si ça doit devenir froid, eh ben, ça deviendra
alors,
froid.
Alors, pour que ça devienne pas froid, j'ai une suggestion, ou enfin pas, je vous suggère ça et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En rugby, par exemple, les arbitres ont un micro. Ont un micro. Est-ce que les erreurs arrivent aussi, hein, j'ai revu récemment des images où un arbitre, il se faisait alpaguer un peu par un joueur et il lui disait, monsieur, vous réussissez pas toutes vos passes, je fais moi aussi des erreurs, je suis désolé. On en a parlé à la télé française quand il y a eu ce PSG Angers, il disait, mais est-ce qu'on devrait pas équiper les arbitres d'un micro pour au moins qu'on comprenne ce qu'ils ont compris eux et pourquoi est-ce qu'ils décident dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben à mon avis, le jour où tu auras des joueurs de rugby qui coûteront 500 millions d'euros et que tu auras des équipes de rugby qui vaudront des milliards, probablement que tu auras plus le même genre de conversation avec les arbitres.
Oui, non, mais je veux dire,
moi
différent.
Je trouve que c'est une super.
Est-ce qu'on peut équiper les arbitres
de... C'est une super idée sur plein de plans. D'abord, comme tu dis, en termes de compréhension, je pense qu'on y gagne.
Et on en rendra aussi ce que les joueurs disent.
Et je trouve qu'en termes de spectacle. C'est gay aussi, parce que pendant 7 minutes, il faut combler, hein, quand t'es supporter.
Oui, mais attends,
comme moi, que j'attendais, j'étais là, j'étais en train de me dire, bon, je regarde cette phase une fois, deux fois, dix fois.
Les mecs dans le stade, ils entendent pas ce que l'arbitre raconte, hein.
Oui, mais il y a tellement plus de monde qui regarde à la télé.
Dans le stade, regardez un match de football américain, l'arbitre a un micro, et d'ailleurs, on sent souvent que la tension est. Tout le monde se baisse d'un ton lorsque l'arbitre va annoncer sa décision, que ça passe dans les micros et les enceintes du stade. Il y a aussi une chose, moi je pensais à le fait d'être sous contrôle, ça calme forcément les gens. Regardez, on va prendre un exemple.
Probablement.
Le mur, depuis qu'on a cette petite bombe, c'était quand même pas grand chose à trouver, une bombe de mousse à raser quasiment, il met un trait par terre, il n'y a plus un joueur qui marche, qui avance, qui se dit, bon bah là si vous avez l'arbitre qui... Si on vous entend, que vous entendez l'arbitre, je pense que les joueurs se tiendront sans doute peut-être un petit peu mieux.
Mais je pense que le mal du foot n'est pas dans ce que l'arbitre et les joueurs s'échangent comme paroles. Mais le mal du foot est bien, enfin le mal du foot. Le problème du VAR pour moi est beaucoup plus important. Je veux dire, et c'est ce que je te disais. Après, je fais du complotisme en disant ça, mais très souvent, je pense qu'à l'inverse, je ne sais pas si on aurait sifflé, enfin pas que lui n'aurait pas sifflé, mais le VAR serait peut-être intervenu. C'est comme par hasard toujours les dites petites équipes, parce que pour l'instant elles sont dans le haut du classement, mais ce sont toujours les petits poussés qui sont les victimes de ça, plus que les grosses cylindrées, selon moi. Vraiment.
C'est vrai. On pourrait en parler des heures. Du coup, on n'aura pas parlé du reste.
On n'aura même pas une heure.
On n'aura pas parlé de Bruges, tout à fait. Hein. Ils l'ont emporté 2-0.
Non, si, la résurrection de Vormer.
Doublé d'un revenant.
Mais je trouve ça super.
Non, en dehors de ces deux buts, on ne l'a pas vu. Moi,
ils étaient au petit trot. Hein. Ils étaient à City déjà, non?
Il était nulle part. Hein,
Vormer, ah oui.
Avant de mettre son coup franc, qui est un petit bijou. Franchement. Mais par contre, je ne sais plus quel était les commentateurs qui disaient « Oh là, le gardien, il laisse vraiment un gros trou sur sa droite » et boum, c'était dedans. Mais bon, il faut la mettre, hein, on est bien d'accord. Mais Vormer était à la rue, quoi. Quand je te dis à la rue, c'est à la rue. Par rapport au Vormer qu'on connaissait, pugnace, dans les pieds tout le temps, une espèce de Gardewitz, aussi hollandais d'ailleurs, pour le coup. Et donc, voilà. Mais après, ça lui a donné un adjuvant. Il a fait une deuxième mi-temps correcte. Et il était là. Et ça, c'est voleur de but à la Vormer.
Il s'est glissé sur le deuxième.
Et on se réjouit de les voir demain.
Hein, parce que
pour le moment, en Champions League, ils font...
J'espère juste qu'ils ne vont pas être rattrapés par le stress et qu'ils vont pouvoir développer leur jeu sans mouiller la culotte.
Je trouve que pour le moment, Clément a fait un super boulot psychologique. Ouais. Aussi.
Mais je trouve que c'est bien que le calendrier est plutôt bon. C'est-à-dire, enfin, quand ils ont 4 points déjà, ils reçoivent City. Ils peuvent les regarder dans les yeux. Enfin, je veux dire, je pense à des joueurs comme Noah Lang. Il reste, et puis lui, il a été sélectionné récemment avec l'équipe des Pays-Bas. Il reste sur une vague positive. Mm-hmm. Et jouer à domicile, ça va être beaucoup plus simple, je l'espère pour eux, que s'ils avaient dû se rendre à l'Etihad Stadium maintenant. Après, ça ne veut pas dire qu'ils se qualifieront ou qu'ils ne vont pas perdre.
Non, demain, ils reçoivent. Hein.
Demain, ils reçoivent. Ils reçoivent. C'est bien, voilà.
Bruges City.
Ouais, et Paris Saint-Germain, Leipzig, et ils ont 4 points, et mm-hmm. City n'en a que 3, et sait-on jamais. Il n'y a pas de raison de...
Pour le moment, les astres sont alignés pour que Bruges passe l'hiver européen. Il faut à quelle place, on verra.
Il faut qu'ils calculent pas. Hein. Ils n'ont pas calculé jusqu'à présent, ça leur a réussi. Ouais.
Voilà, écoutez, on a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire en une heure sur le VAR. On aurait pu dire encore des milliers de choses. Atlético Liverpool demain, PSG Leipzig, Ajax Dortmund, voilà le programme, le gros programme de cette Ligue des Champions cette semaine. Il y a d'autres clubs.
Et on n'a pas parlé de Newcastle Tottenham, enfin Tottenham Newcastle, oui, c'est passé.
On n'a pas parlé du fait que Eden Hazard est forfait pour la première fois de la saison et qu'il ne jouera pas demain, que Tielemans a marqué un but exceptionnel, et que Lukaku est muet pour la 6e fois consécutive, ce qui lui était pas arrivé depuis 3 ans.
Mais Thomas Tuchel a dit, il n'est pas inquiet pour Romelu.
Et alors tant mieux pour
moi
lui.
Non plus.
On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne semaine de football et à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye.
À demain matin pour ce qui me concerne. You told me you love me, I said it back, I don't mean it. I had to burn everything that I want just to come back like a phoenix. You've been worried about me, the tornado inside, I've been complicated. Take a second to show me how to burn in her eyes. I could swear I'm changing. I wasn't very happy when you met me, baby boy. You told me you loved me. I said it back, I don't mean it. I had to burn everything that I want just to come back like a phoenix. Haven't called back, but I'm building it up slowly, baby, surely. You're the first one I contact when I feel good enough. You don't have to worry. I wasn't very happy when you met me, baby boy. You told me you love me. Said it back, I don't mean it. I had to burn everything that I was just to come back like a phoenix. You told me you love me. I said it back, I don't mean it. I had to burn everything that I was just to come back like a phoenix. I thought I met you when I came in this relationship, but all the roses in the world would only fuel my rage. And now you're wounded from the blade. Like a phoenix. I'm burning alive. First to survive, it's been complicated. Oh. Rose is in the world.
per lei perché oramai.
Una mena, desde Málaga pa'l mundo.
Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile.
Deja un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mare.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta.
Cuando pienso en ti yo sonrío.
Si te encontré un amor nuevo, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé. Si me quedo, tú quédate conmigo. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que nos separamos. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que se fue, no.
Siento que quiero quedarme aquí dentro. Aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura.
Cuando pienso en ti yo sonrío.
Y aunque mira, no seas indiferente. Da igual lo que opinen, no puedan decir.
Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente, mi vestido.
Trouvez-nous sur radiojudaica.be.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. The fire. I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight.
Look what you made me do. stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Qu'on m'efface, je n'ai pas trop d'amis. Regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire.
C'est pas le pire.
Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille. Il faut que je m'éclipse ou alors accuser les coups ou dehors. Il faudra que je cours. Tous les jours, faudra-t-il que je cours jusqu'au bout. Je n'ai plus de souffle, je veux que l'on m'écoute. Plus de doute. Pour m'en sortir, je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête d'une vie moins dure.
Sûr que c'est pas gagné,
mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, faudra que je cours. Tous les jours, faudra-t-il que je cours jusqu'au bout. Pour connaître le monde et l'amour, faudra que je cours.
Je peux plus respirer dans ce monde parmi vous.
Je voudrais m'arrêter.
Parce que des... wow. Faut faire la monnaie fort très très vite. Tes sens de tout niquer rétrécissent. Mais tu t'emballes et t'es intrépide. Tu ne veux jamais faire comme les autres. Mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails. Même si tu sais que tu vaux mieux que ça. Négro t'es spécial. Négro t'es la suite. Qui peut tout changer. Qui peut mettre les moves à la mode. Que des niques ta mère. Très peu pour toi les Tiamo. Donc oh, t'es tout seul dans le Viano. Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement. Bien sûr que t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable. Mais moi, I know que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial.
Hey. Spécial.
spécial. Hein. Selon l'environnement, j'abaisse mon niveau. Comme un goldfish dans le bocal. Envie de romance, mais y'a personne qui vaut. Même en famille, j'ai des blocages, mais dans la vraie vie. Flow calme, toujours méfiant devant un blanc cash. Premier feu, fit, flingue dans le local. Rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision, hélico, longue et la focale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un plaquage. Que deviendront nos types? Même moi, j'ai pas de bon diplôme. Diplôme, comprendre leur mot diplôme. Lis le monde diplôme et le bon diplôme. Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Se chamailler, se battre, ne jamais les décevoir. Ceux avec qui je passais l'été sous le bat. Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battre quand c'était spécial.
Docteur, désolé de vous déranger, mais il y a encore un type qui a essayé de se suicider. Bah, il s'est mis une balle dans la tête, il a un énorme trou, je sais pas quoi faire. Je sors le défibrillateur?
Oui.
D'accord, j'essaie de le ramener ici. Mon docteur, ça fonctionne pas là. Qu'est-ce qu'on fait?
Ne vous inquiétez pas, il est juste dans une phase de coma profond. Tout va bien se passer. Allez.
Hein?
Découvrez la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupes.be.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Vous êtes une petite ou une grande entreprise? Vous êtes une association? Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité?
Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat@radiojudaïka.be. Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
Salut, c'est Amir. Je vous donne rendez-vous le jeudi 18 novembre à Bruxelles pour une soirée exceptionnelle au profit des secouristes du Magen David Adom. Je suis heureux de participer à cet événement et j'espère vous y retrouver très nombreux.
Enfin, Émilie, on peut se retrouver pour notre soirée de gala annuelle. Rejoignez-nous le 18 novembre à l'Acte 3 avec, entre autres, Amir pour une soirée inoubliable. Les places sont à 120€ et pour toute réservation, appelez-nous au 02 318 12 48 ou envoyez-nous un email à info@mda-be.org.
Nous vous attendons très nombreux pour une magnifique soirée placée sous le signe de la vie et de la fête. Tous nos secouristes en Israël comptent sur vous. Julie, rendez-vous le 18 novembre.
Évidemment.
Judaïka 90.2 FM.
Judaïka. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas.
Tell me you love me if I bring you to the light. to your time.
You got me close, I feel the heat between your thighs.
You're way too young to end your life.
Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Take me back to the start.